La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
Bonjour, dans cette série de trois émissions autour de Bergson et Maritain, nous vous proposons, après avoir regardé en quoi Bergson était-il un maître à penser pour Jacques Maritain, comment aujourd'hui l'être et l'intuition vont être pensés par Jacques Maritain en se démarquant de Henri Bergson. Jacques Maritain rappelle dans La philosophie bergsonienne, son œuvre de 1913, qu'au temps où nous suivions avec enthousiasme dans la petite troupe de Peggy et de Georges Sorel les cours de Bergson au Collège de France, c'est la révélation d'une nouvelle métaphysique que nous attendions et c'est cela qu'il semblait lui-même nous promettre. Il n'en était pas ainsi en réalité. Bergson ne nous a pas donné cette métaphysique. Il n'a jamais eu l'intention de nous la donner, et pour beaucoup d'entre nous, cela a été une déception très vive. Il nous semblait qu'une promesse sur laquelle nous comptions n'était pas tenue. À distance, les choses, quand nous repensons à tout cela aujourd'hui, apparaissent sous un jour différent. Quand Bergson relevait, dans les esprits qu'il écoutait, et que l'agnosticisme ou le matérialisme occupaient de leur tristesse, la valeur et la dignité de la métaphysique, quand il leur disait d'un accent inoubliable à ces esprits nourris dans le plus déprimant relativisme pseudo-scientifique, « C'est dans l'absolu que nous sommes, que nous nous mouvons et que nous vivons », il suffisait qu'ainsi il réveillât en eux le désir métaphysique, l'éros métaphysique. C'était une œuvre assez grande. Et rien n'est plus émouvant peut-être que l'espèce de détachement avec lequel il laissait ce désir une fois éveillé, faire son chemin propre chez les uns et chez les autres, et en amener quelques-uns à une métaphysique qui n'était pas la sienne, qui même luttait de front contre la sienne, en attendant que sur des points plus secrets, concernant non tant la conceptualisation philosophique que les directions spirituelles de la philosophie, de nouvelles rencontres se préparent. Bel hommage à Henri Bergson, qui laisse finalement ses élèves libres, après leur avoir donné l'éros métaphysique. Bel hommage, mais aussi, évidence que Henri Bergson ne donne pas un contenu métaphysique au sens où Maritain l'entend. Qu'en est-il et comment peut-on envisager ce que Maritain propose dans les deux par rapport aux deux piliers de la philosophie bergsonienne, qui sont, je le rappelle, l'intuition et la durée, comment Maritain peut s'opposer ou nuancer la pensée d'Henri Bergson. Je vais commencer par la durée. Maritain écrit donc à la page 202 du premier volume des œuvres complètes, pour les auditeurs qui aimeraient s'y reporter. Finalement, il dit que « Quelle est pour la philosophie de saint Thomas et pour toute saine métaphysique l'objet propre de la connaissance intellectuelle? Qu'est-ce que l'intelligence a pour fin d'atteindre et de posséder ? C'est l'être. L'intelligence n'est satisfaite que lorsqu'elle a saisi l'être propre, l'essence de ce qu'elle veut connaître. » Du coup, Maritain va dire que la philosophie bergsonienne remplace l'être par la durée. Mais ce remplacement n'est pas anodin, il va s'appuyer toujours sur un devenir, sur quelque chose de mouvant, permanent. Et Maritain conteste finalement ce remplacement inconscient ou de fait de la philosophie bergsonienne de l'être par la durée. Voici ce qu'il écrit. Quel est l'objet de l'intuition bergsonienne ? Et qu'est-ce qu'elle nous donne comme l'essence et le fond de la réalité ? C'est précisément la durée. Cette durée, pleinement connaissable à la seule intuition et inexprimable en termes conceptuels, n'a rien de commun avec le temps mathématique, avec le temps du monde idéal de la physique, avec le temps mesurable, qui n'est en réalité que de l'espace. Car le physicien, personnage peu en honneur dans la philosophie bergsonienne, s'obstine à confondre le temps avec la ligne droite par laquelle il se le représente graphiquement. Le temps mathématique n'est qu'un symbole purement relatif, extérieur au réel, ne mordant pas, pour ainsi parler, sur l'étoffe des choses. Au contraire, la durée bergsonienne est l'étoffe même des choses. Ce qui ne signifie pas qu'elle est une substance, une chose qui dure. Il n'y a pas de chose, il n'y a que du se faisant. La durée, le temps concret et véritable, c'est le changement pur, c'est-à-dire le changement sans rien qui change. C'est une activité sans substrat, une création sans chose créée et sans chose qui crée. Un flux, un écoulement, qui s'enrichit sans cesse, qui grossit en avançant, sans pourtant être quelque chose, qui s'écoule et qui grossit. Vous le saisissez à travers cette page magnifiquement écrite, que la durée, en tant que ersatz, finalement, produit de remplacement de l'être, n'est pas tenable pour Maritain. Parce que on va vers une influence post-hégelienne de devenir permanent ou héraclitéen, où tout coule et on ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve, mais c'est ce pantareil de toute chose qui est absolument inadmissible. Pourquoi et comment ? Tout simplement parce que Maritain a découvert saint Thomas d'Aquin pendant qu'il était à Heidelberg. Alors on imagine le couple Maritain qui s'est installé à Heidelberg dans l'été 1906 et qui se promène en hiver, en été, dans cette belle campagne allemande. Le couple Maritain est à Heidelberg pour suivre les cours de biologie de Hans Driesch. Maritain a aussi fait de la biologie, comme Aristote, il s'intéresse beaucoup aux choses de la nature. Et voilà que pendant ces années qui suivent leur conversion, le couple Maritain se dit qu'il ne peut plus continuer à philosopher. N'oublions pas que la découverte de la somme de saint Thomas ne se fera qu'en 1909. Voici encore une page descriptive de cette époque, rédigée par Maritain lui-même. C'est en 1908, tandis que nous délibérions dans la campagne avoisinant Heidelberg, si nous pouvions accorder la critique bergsonienne du concept et les formules du dogme révélé, que l'irréductible conflit entre les énoncés conceptuels de la foi théologale qui avait récemment dessillé nos yeux et la doctrine philosophique pour laquelle nous nous étions passionnés pendant nos années d'études et à laquelle nous devions d'avoir été délivrés des idoles matérialistes, nous a paru comme un de ces faits trop certains dont l'âme, à peine a-t-elle commencé de se les avouer, sait aussitôt qu'elle ne leur échappera pas. Il fallait choisir. Il est clair qu'on ne pouvait choisir que pour l'infaillible, et donc avouer que tout le travail philosophique auquel on s'était complu était à recommencer. Puisque Dieu nous propose dans des concepts et des propositions conceptuelles qui nous arrivent toutes ruisselantes du sang des martyrs, au temps de l'arianisme on savait mourir à cause d'un iota, les vérités les plus transcendantes et les plus inaccessibles à notre raison, la vérité même de sa vie divine, son abîme à lui, c'est donc que le concept n'est pas un simple instrument pratique, incapable à lui seul de transmettre le réel à notre esprit, bon à morceler artificiellement les continuités ineffables, et qui laisse fuir l'absolu, comme l'eau à travers un filet. Grâce à cette merveille naturelle de force et de légèreté qu'est l'intellection analogique, jetée d'un bord à l'autre et qui rend notre connaissance capable de l'infini, le concept, divinement élaboré dans la formule dogmatique, tient sans le limiter et fait descendre en nous, en miroir et en énigme, mais aussi en toute vérité, le mystère même de la déité qui se prononce elle-même éternellement dans le Verbe incréé. Nous commenterons cette page après un temps de pause.
Thank you.
La philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Le mot concept est revenu plusieurs fois et les maritains ont découvert la force du concept par le dogme catholique. La verve de la plume maritainienne est forte puisqu'il dit que c'était une époque où on savait mourir à cause d'un iota. Et l'intuition bergsonienne, qui elle seule peut finalement avoir accès à la vérité de la durée, parce que la durée n'est pas un temps spatialisé et mathématisable, finalement, cette opposition, ce déni du concept, cette opposition entre intelligence et intuition, ne peut être acceptée par le couple maritain. Alors, je voudrais continuer notre investigation par un arrêt sur l'intuition. Jacques Maritain va répondre à Bergson en réfléchissant sur l'intuition, et voilà ce qu'il écrit, page 240 du volume 1 des œuvres complètes dans la philosophie bergsonienne. Premièrement, il y a une première intuition sur laquelle repose toute la science humaine. C'est l'intuition du monde extérieur, la perception sensible. Dans la sensation, l'objet vient, par son action, produire en nous une similitude psychique, ce qu'on appelle spécies, de lui-même, par le moyen de laquelle nous le percevons directement, non pas dans son essence, mais dans ses accidents, dans ses qualités sensibles et dans l'action elle-même qu'il exerce sur nous. L'organe animé connaît donc immédiatement l'objet concret, dans la matérialité de son existence et de son action individuelle et contingente. Donc on le voit, cette première intuition part de la perception sensible du sens. Il y a une seconde intuition, celle du moi agent, que la conscience intellectuelle ne connaît pas par son essence, mais qu'elle perçoit dans ses opérations, notamment dans les actes d'intelligence que par réflexion sur elle-même, l'intelligence saisit directement et immédiatement. Donc deuxième intuition, celle du jeu, du sujet, dans son attitude réflexive. Il revient sur cet acte d'intelligence. Il y a enfin une troisième sorte d'intuition, et c'est celle qui nous importe, la perception intellectuelle. Et Maritain développe. L'intelligence, en effet, est de soi une faculté intuitive. Lorsque fécondée par la forme intelligible reçue en elle, elle produit en elle-même une ressemblance vivante de la chose connue qui l'identifie avec la chose, non pas à la manière dont celle-ci elle-même existe naturellement, mais à la manière immatérielle dont elle, l'intelligence, existe. Elle perçoit directement l'objet intelligible qu'elle va ainsi chercher dans le réel et qui ne fait qu'un avec lui. On le voit, Maritain a réintégré l'intuition dans le processus d'intellection. Et c'est ça l'enjeu. Parce que finalement, Bergson a cette vision finalement réduite de l'intelligence parce qu'on a réduit l'intelligence à la raison. Le siècle des Lumières, lumière de la raison, va poser finalement comme définition imprescriptible, c'est que la raison va s'attacher à ce qui est démontrable. Or, l'intelligence est beaucoup plus vaste que cela. Elle peut comprendre tout ce qui renvoie au mystère, et notamment à ce mystère de l'être qui est ce pourquoi elle est faite. Elle est faite pour connaître ce mystère, et c'est ça la métaphysique. Du coup, l'éros bergsonien qui permet de développer l'éros philosophique ne peut pas accéder à un contenu de métaphysique parce qu'il s'est donné un mauvais outil en séparant l'intuition de l'intelligence. Maritain va aller plus loin et va dire comment comprendre cette perception directe de l'objet intelligible. Alors en termes scolastiques, cette perception directe se fait par l'intentionnalité. Le sujet connaissant devient en quelque sorte la chose avec les modalités de l'intelligence. Et pour Bergson, Ce n'est pas cela, ce n'est pas par intentionnalité. L'intuition de Bergson va se donner ce que Maritain va appeler une illusion de lien direct, de quelque chose de sans intermédiaire. La fracture entre Bergson et Maritain est donc définitive et décisive. Maritain va revenir sur cette œuvre de 1913, qui est sa première œuvre publiée, et qui est, on va dire, un peu dure, un peu violente, entière, comme elle peut l'être, écrite par un jeune homme plein de fougue. Il reviendra par deux fois sur cette œuvre, une première fois dans la seconde édition, où il dira finalement « Je ne change rien au contenu qui reste vrai, même si je reconnais que le style est un peu trop emporté, trop absolu. » Et il y reviendra plus tard encore dans l'avertissement au lecteur à propos de la traduction en anglais de son ouvrage de 1913. Si j'ai choisi de commencer finalement l'investigation de la pensée réaliste par ce départ de Bergson dans la pensée de Maritain, c'est parce que Bergson a marqué toute la philosophie du XXe siècle et que ce départ nous fait comprendre, par finalement différence, ce que va apporter de plus profond la philosophie réaliste ou de plus absolu, on va dire. Je vous retrouve juste après pour conclure sur ce rapport entre durée et intuition.
Philosophie réaliste, Claire Bressolet.
Maritain écrit en 1913 sa grande critique bergsonienne. Et dans le premier volume des œuvres complètes de Jacques Maritain, on rencontre un autre écrit qui date de 1920 et qui s'appelle Art et scolastique. Et je pense qu'il faut les mettre en perspective. La préoccupation de Jacques Maritain autour de l'intuition concernera aussi la réflexion sur l'art. Et nous abordons ici finalement une partie importante qui permet de comprendre l'être et l'intuition, c'est finalement une anthropologie. Pour Maritain, il y a finalement trois dimensions humaines qu'il va représenter en 1953 dans un livre qui s'appelle « L'intuition créatrice dans l'art et la poésie » sous forme de trois cônes qui s'emboîtent les uns les autres et dont la pointe des cônes est unifiée dans ce qu'il appelle le je, le moi. Le cône le plus extérieur est celui des sens externes. Nous venons de le voir, c'est par la sensation que l'intuition peut commencer. Le deuxième cône est celui des sens internes. On pense à l'imagination. Et le troisième cône est celui du concept. Et ces cônes, je le rappelle, sont liés les uns aux autres dans un point nodal qui est celui du jeu. Alors, que vient faire l'intuition dans cette anthropologie ? Mais on va le voir tout de suite. Maritain va rajouter à ces cônes, finalement, une sphère dans son schéma de 1953, qui est dans l'intuition créatrice dans l'art et la poésie, une sphère grisée, qui est celle qui va représenter l'inconscient. La première sphère grisée s'appuie sur le cône extérieur, celui des sens, et représente l'inconscient freudien, c'est-à-dire l'inconscient pulsionnel ou préconscient. Effectivement, cet inconscient est important, Freud l'a mis en évidence, mais cet inconscient ne partant que des sens ne peut pas rendre compte de toute la dimension humaine. Maritain va dire qu'il y a un deuxième inconscient ou préconscient, c'est le préconscient spirituel qui, lui, part de ce point nodal où sont articulés les trois cônes, dont je rappelle la caractéristique, le cône des sens, le plus extérieur, pour les sens externes, les sens internes comme l'imagination, et puis le concept. Et cet inconscient spirituel ou préconscient spirituel est celui dans lequel l'intuition advient. On le voit, cette anthropologie permet à Maritain d'associer intuition et intelligence et de sortir de la dichotomie bergsonienne entre intuition et intelligence et en même temps de faire droit à l'intuition de l'être. Parce que l'homme est fait pour une consistance. Ce jeu, qui est le point nodal où se connectent finalement les trois cônes, est celui finalement du jeu de la personne, de cette personne qui est éminemment libre et qui peut dialoguer avec le Verbe et avec Dieu lui-même. Et Jacques Maritain pourra articuler donc l'intuition créatrice dans cette préconscience spirituelle. L'intuition créatrice a pour finalité la création, parce que l'art appartient à la sphère pratique. Et il articulera aussi l'intuition intelligible, l'intuition eidétique, qui permet d'avoir accès à l'être, dans l'autre dimension, qui est la dimension spéculative, parce que la finalité de l'intelligence n'est pas la création, mais la connaissance. Nous y reviendrons dans la troisième émission de ce volet consacré à Bergson et Maritain.